Philippe de Poitiers, un peu incliné sur l'accoudoir de son faudestueil, agita lentement les mains. « J'admire, Robert, j'admire, dit-il, de vous voir si empressé aujourd'hui à suivre la volonté de mon père, alors que vous fûtes si peu obéissant à sa justice en son vivant. Les bons sentiments vous viennent avec l'âge, mon cousin. Soyez rassuré, c'est précisément la volonté du roi Philippe que nous nous sommes efforcés de respecter. N'est-il pas vrai, mon oncle ? Ajouta-t-il à l'adresse de Louis d'Evreux. Louis d'Evreux, qui depuis 6 semaines s'opposait aux manœuvres de Valois et de Robert d'Artois, prit la parole. « Le règlement sur lequel vous vous fondez, Robert, vaut pour le principe, mais non indéfiniment pour la personne. Que pareil accident, dans 50 ou 100 ans, survienne encore la couronne, ce ne sera pas mon frère Charles qu'on ira chercher pour régenter le royaume. Si longue vie que je lui souhaite. Notre sire Dieu n'a pas fait Charles éternel tout exprès. Le règlement, en établissant que la régence revient au frère le plus avancé en âge, désigne donc bien Philippe. Et c'est pourquoi l'autre jour nous lui avons prêté hommage. Ne remettez donc pas en question ce qui est tranché. » On croyait Robert maté, c'était mal le connaître. Il baissa légèrement la tête, offrant aux rayons du soleil qui perçait les vitraux ses cheveux de cuivre, coiffés en rouleaux sur sa large nuque. Son ombre s'étendait sur les dalles comme une menace jusqu'au pied du comte de Poitiers. « Les volontés du roi Philippe, reprit-il, ne contenaient rien au sujet des filles royales, ni qu'elles eussent à renoncer à leurs droits, ni que la décision fût remise à l'assemblée des pairs. » Un frémissement d'approbation agita aussitôt les rangs des seigneurs de Bourgogne et de Champagne, et le duc Eudes lui-même, sur l'estrade, s'écria « Voilà qui est bien dit, mon cousin, et c'est tout juste ce que j'allais clamer moi-même. » Blanche de Bretagne, à nouveau, lança autour d'elle ses petits regards pétillants. Le connétable commençait à s'agiter sur son siège, on l'entendait grommeler, et ceux qu'il connaissait bien prévoyaient un éclat. « Depuis quand ? » reprit le jeune duc en se levant. « Cette novelté a-t-elle été introduite dans nos coutumes ? Depuis hier, je pense. Depuis quand les filles, si les filles se viennent à manquer, devraient-elles être privées des possessions et couronnes de leur père ?» Le connétable à son tour se dressa. « Depuis le temps, messire duc, dit-il avec une lenteur calculée, que certaines filles ne donnent plus au royaume la garantie d'être bien nées de ce père dont on veut la faire hériter. Sachez enfin ce qui se dit par le monde, et que notre cousin Valois nous a lui-même souvent répété au conseil étroit. La France est trop beau et trop grand pays, messire duc, pour que l'on puisse, sans que les pères en aient délibéré, remettre la couronne à une princesse dont on ne sait si elle est fille de roi ou fille d'écuyer. » L'assemblée fit silence. Eudes de Bourgogne était devenu blanc. On crut qu'il allait se lancer contre Gaucher de Châtillon, qui attendait ramassé dans sa force de vieil homme de guerre. Mais ce fut vers Charles de Valois que la colère du bourguignon dévia. « Ainsi, mon cousin, s'écria-t-il, vous qui avez choisi d'unir votre fils aîné à une autre de mes sœurs, vous vous employez donc à honnir celle-là qui est morte ?»« Eh, mon compère, dit Valois, pour ce qui est de se honnir, votre sœur Marguerite, que Dieu lui pardonne ses péchés, n'a pas eu besoin de mon aide. » Et plus bas, il ajouta à l'adresse de Gaucher de Châtillon, « Quel besoin avez-vous de m'aller mettre en cause ?»« Et vous, mon frère par le mariage ?» continuait Eudes en désignant Philippe de Valois. « Approuvez-vous aussi les vilainiques, j'entends ?» Philippe de Valois, empêtré dans sa grande taille et cherchant vainement des yeux le conseil de son père, souleva les bras d'un geste d'impuissance et se contenta de dire « Il faut avouer, mon frère, que le scandale était gros !» L'assistance commençait de bourdonner. Du fond de la salle venaient des bruits de dispute, certains seigneurs tenant pour la bâtardise de Jeanne, d'autres pour la légitimité. Charles de la Marche, mal à l'aise, pâle, baissait la tête comme chaque fois qu'il était question de cette misérable affaire. « Marguerite est morte, Louis est mort, se disait-il, mais ma femme blanche est toujours vivante et moi je continue de porter au front mon déshonneur. » À ce moment, le comte de Clermont, auquel personne n'accordait plus attention, donna des signes d'agitation. « Je vous défie, messire, je vous défie tous » cria-t-il soudain. « Plus tard, mon père, plus tard, nous irons en tournoi, » dit Louis de Bourbon d'une voix qui se voulait tranquille et naturelle. Et en même temps, il invitait du geste les deux gigantesques écuyers à se tenir prêts pour le cas où il faudrait ceinturer le dément. Robert d'Artois contemplait enchanté de soi le tumulte qu'il avait provoqué. Le duc de Bourgogne lançait à Charles de Valois « Certes, je souhaite que Dieu pardonne à Marguerite ses péchés, si elle l'en a commis. Mais je souhaite moins qu'il pardonne à ces assassins !»« Ce sont mensonges que vous avez écoutés, Eudes !» répliquait Valois. « Et vous savez bien que votre sœur n'est morte de rien d'autre que de honte et de remords en sa prison !» Maintenant que le comte de Valois et le duc de Bourgogne étaient bien profondément brouillés, sans chance aucune qu'ils unissent leur cause avant longtemps, Philippe de Poitiers étendit les mains dans un geste d'apaisement. Mais Eudes ne voulait pas la paix, bien au contraire.